Petit zoom sur l'inflation. Pour une raison que je m'explique mal, l'inflation semble avoir une réputation incroyablement négative au sein des non-initiés aux arcanes de l'économie. Phénomène à la fois systématiquement associé aux dépenses gouvernementales et à de dangereuses crises économiques, l'inflation fait peur sans que personne n'y comprenne grand-chose. Posez-vous la question. Qu'est-ce que l'augmentation des prix risque de provoquer? Si les dépenses des uns sont les revenus des autres, alors quand les uns dépensent plus, les autres gagnent plus. En quoi cela pourrait-il être dangereux? En réalité, la crise inflationniste est un mythe qui prend sa source dans quelques cas d'hyperinflation très spécifiques, comme celui de l'Allemagne en 1923. Quant à la fameuse période de stagflation des années 1970, forte inflation et augmentation du chômage, il s'agit d'un cas particulier qui s'insère dans une période très spécifique de crise énergétique et de très faible chômage. Regardons cela de plus près. Planche à billets plus sous-production ne veut pas dire inflation. Avant toute chose, répondons à la question suivante. Doit-on s'inquiéter de l'inflation en période de crise de la demande? Que se passe-t-il quand une économie entre en crise? Les dépenses diminuent, donc les revenus suivent la même tendance. Les entreprises se serrent la ceinture, car leurs carnets de commandes sont moins remplis, ce qui conduit à des licenciements. Or, ceci n'arrange rien puisque l'augmentation du nombre de chômeurs réduit les dépenses de consommation des particuliers et donc contribue à vider encore davantage les carnets de commandes. L'État, un amortisseur de crise né. Notez que dans une telle situation, parce que l'État taxe les dépenses de consommation, TVA, et les revenus, impôts sur le revenu, sur les sociétés et cotisations sociales, celui-ci voit ses propres revenus diminuer en même temps que le PIB. D'un autre côté, parce que le chômage augmente et que tous ces travailleurs sans emploi doivent être compensés, les dépenses de l'État s'accentuent. Voilà un mécanisme qui augmente naturellement les déficits publics en période de crise. Ce qui est une excellente nouvelle, car c'est très exactement ce qu'il faut. Davantage de déficits pour relancer les bénéfices. Autrement dit, mécaniquement et sans aucune volonté d'investissement de sa part, l'État agit comme un amortisseur de crise. Qu'arrive-t-il à la capacité de production de l'économie en période de crise? Les bureaux, les usines et les champs sont toujours là. Les travailleurs qualifiés n'ont pas disparu. La capacité de création de richesses de l'économie est toujours la même. C'est simplement la capacité d'achat, les dépenses, qui est réduite. Autrement dit, les richesses sont à portée de main. Il ne manque que la volonté de dépense. Voilà pourquoi, en période de crise, quand la capacité de production est largement supérieure à la demande, une augmentation du déficit public ne risque pas de créer de l'inflation. En effet, l'inflation qui fait peur aux économistes est celle qui provoque une augmentation des prix sans provoquer d'accélération de la croissance. Attention, l'inflation ne se mesure que sur le marché du neuf et pas sur celui de l'occasion. Le calcul de l'inflation est donc imperméable aux bulles spéculatives. Mais en cas de crise, le risque est inexistant puisque la capacité de production est bien là, inutilisée et prête à être remise en marche. En effet, une entreprise qui voit son carnet de commandes se remplir choisira en premier lieu d'augmenter la production pour répondre à la demande. Et c'est seulement si la demande va au-delà de ce qu'elle est capable de produire qu'elle se retrouvera devant un choix. Augmenter les prix pour tirer profit de la situation, la demande est supérieure à l'offre, ou investir pour accroître la capacité de production. Les deux solutions ne sont d'ailleurs pas exclusives. Une entreprise pourrait très bien choisir d'augmenter ses prix afin d'améliorer ses marges et ainsi de financer les investissements permettant d'augmenter la capacité de production. Bref, la peur systématique de l'inflation quand il est question de déficit public n'a pas beaucoup de sens. En cas de crise de la demande, comme la capacité de production est présente mais inutilisée, on voit mal pourquoi une augmentation des dépenses, qu'elles soient publiques ou privées, provoquerait autre chose qu'une augmentation de la production. En finir avec l'équation planche à billets égale inflation. La croyance en une planche à billets systématiquement inflationniste vient d'une mauvaise compréhension de l'argument des économistes. Il est difficile de rentrer dans le détail sans devenir trop technique. Disons simplement que tous les économistes, même s'ils ne la modélisent pas forcément, s'accordent pour dire que la création monétaire est nécessaire pour permettre la croissance économique, injection de carburant dans le moteur. Ce qui cause l'inflation selon eux, et on va voir qu'il y a d'autres causes, c'est l'injection trop importante de monnaie, noyer le moteur. Il n'est donc pas question de ne jamais utiliser la création monétaire. De toute manière, celle-ci intervient en continu tous les jours via les crédits effectués par les banques de dépôt et la banque centrale, mais bien de l'utiliser correctement. La croyance populaire qui associe systématiquement création monétaire, souvent appelée planche à billets, et inflation est tout simplement fausse. Aucun économiste contemporain n'a jamais dit ça, même pas Milton Friedman. L'argument consiste plutôt à dire que forcer les banques centrales à créer plus de monnaie que ce qu'elles estiment nécessaire, par exemple pour financer des dépenses publiques ou relancer la demande, les dépenses de consommation et d'investissement, au-delà d'un certain seuil, risque de provoquer de l'inflation. Mais encore une fois, ces affirmations sont faites à partir de modèles mathématiques théoriques ultra simplificateurs et leur pertinence est très largement discutable. La faute au modèle de la création monétaire. Ces histoires de monnaie sont très perturbantes. Les économistes qui ont peur de l'inflation provoquée par l'excès de déficit public sont aussi ceux qui ne modélisent pas correctement la création monétaire. Ils utilisent le modèle théorique des réserves fractionnaires, donc du contrôle de la masse monétaire par la banque centrale, plutôt que le modèle réaliste de la création monétaire ex nihilo par les banques de dépôt. Leur raisonnement est le suivant. L'excès de monnaie cause l'inflation, donc celui qui contrôle la masse monétaire doit faire attention à ne pas noyer le moteur. Puisque la banque centrale contrôle la masse monétaire, confère la théorie des réserves fractionnaires, c'est elle qui est responsable des crises inflationnistes. Mais parce que cette banque centrale est soumise aux volontés de l'État, qui peut choisir de l'obliger à financer son déficit public, ce sont en fait certaines demandes irresponsables de l'État, énorme déficit, qui provoquent les crises inflationnistes. Donc, il faut rendre les banques centrales indépendantes du pouvoir politique. Notez qu'il ne s'agit pas de dire que tous les déficits publics financés par la banque centrale provoque des crises inflationnistes, mais simplement que certaines demandes ne sont pas raisonnables et que la banque centrale doit avoir le pouvoir de dire non. La limite du raisonnement est double. Non seulement il est faux de présenter la banque centrale comme la seule capable d'influencer la masse monétaire, la théorie des réserves fractionnaires est complètement fausse, mais en plus, l'inflation peut être provoquée par bien d'autres mécanismes que la création monétaire. Nous allons le voir. Où en sommes-nous? L'inflation est-elle causée par les déficits publics? Non. L'inflation est-elle causée par des déficits publics financés par la création monétaire? Non. De nombreux déficits, privés et publics, sont financés à l'heure actuelle par la création monétaire. Lorsque vous faites un crédit pour acheter un appartement, vous financez un déficit, plus de dépenses que de revenus, par la création monétaire. Les entreprises font de même quand elles financent certains projets par le crédit bancaire. Mais alors, qu'est-ce qui cause l'inflation? Selon certains modèles mathématiques théoriques, la planche à billets semble, dans certaines conditions, jouer un rôle, mais ces modèles sont vieux et aujourd'hui largement contestés car ils ne collent pas aux données. Notre connaissance des mécanismes de l'inflation est en réalité partielle. S'il est possible de prédire l'inflation dans certains cas extrêmes, les économistes n'arrivent en général pas à se mettre d'accord sur ce qui se passe. En gros, les mécanismes de fixation des prix dans une économie capitaliste sont tellement complexes que, d'une part, personne ne peut savoir précisément comment ils fonctionnent et, d'autre part, il n'existe pas de modèle fiable pour les prédire correctement. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'une certaine forme d'inflation, qui ne porte pas officiellement ce nom même si son mécanisme est similaire, est causée par un emballement des volontés d'achat par les agents économiques privés, particuliers et entreprises, de biens immobiliers et de produits financiers d'occasion. Le tout est financé par les banques de dépôt, donc par la création monétaire. Autrement dit, les bulles spéculatives sont des crises inflationnistes 100% privées, financées par des banques privées et par des excès de déficit privés. On ne les appelle pas officiellement inflation parce qu'elles ne touchent pas l'économie réelle, le marché du neuf, mais leur dangerosité pour le fonctionnement de l'économie n'est plus à prouver. Cela dit, les bulles spéculatives sont dangereuses justement parce qu'elles font grimper les prix de biens, immobiliers et financiers, qui ne sont pas connectés à l'économie réelle. Or, puisque la vraie inflation se mesure dans l'économie réelle, les mécanismes qui la rendent dangereuse sont complètement différents. D'ailleurs, peut-on réellement dire que l'inflation est dangereuse? Si les crises financières liées à des bulles spéculatives sont nombreuses, où sont les grandes crises inflationnistes du marché du neuf, de l'histoire, et comment fonctionnent-elles? Ce que l'inflation provoque vraiment. Commençons par comprendre pourquoi l'inflation peut être un réel problème. La diminution de la valeur de l'épargne. Tout d'abord, l'inflation provoque la diminution de la valeur de l'épargne. Si aujourd'hui une coupe de cheveux coûte 10 euros, mais que vous n'aurez besoin d'aller chez le coiffeur que le mois prochain, vous pouvez toujours épargner les 10 euros dont vous aurez besoin dans un mois. Sauf qu'un mois plus tard, si l'inflation a fait augmenter le prix de la coupe de cheveux à 11 euros, alors vous aurez perdu du pouvoir d'achat. À cause de l'inflation, votre épargne ne permet plus d'acheter ce qu'elle pouvait acheter un mois plus tôt. L'inflation réduit le pouvoir d'achat des épargnants qui ne savent pas s'en protéger. La redistribution du pouvoir d'achat. Deuxième problème, l'inflation provoque une redistribution du pouvoir d'achat. Si une entreprise augmente ses prix de 10% sans augmenter le salaire de ses employés, elle favorise l'augmentation du pouvoir d'achat de ses actionnaires plutôt que celui des travailleurs qu'elle emploie. Le même genre de raisonnement s'applique pour les retraités. Si les prix montent mais que les pensions versées n'augmentent pas, alors le pouvoir d'achat des retraités diminue. Ici, il s'agit clairement d'un problème de rapport de force. Les travailleurs arriveront-ils à faire pression sur leur entreprise pour obtenir une augmentation de salaire en rapport avec l'augmentation des prix? Même question par rapport au pouvoir public pour les retraités. L'insécurité. Troisième problème, l'inflation est une source d'insécurité pour les entreprises et pour les particuliers. Ne pas savoir si son épargne aura toujours de la valeur l'année prochaine, être en constante négociation avec son entreprise ou avec l'État pour maintenir son pouvoir d'achat, ne pas savoir si on a suffisamment augmenté les prix pour maintenir ses marges, tout cela est vecteur de stress. Or, pour que le moteur fonctionne bien, les agents économiques doivent être confiants et rassurés. Car rappelez-vous, ce qui cause les crises de la demande, c'est un ralentissement des dépenses de consommation et d'investissement. La déprime des créanciers. Quatrièmement, si les emprunteurs adorent l'inflation, vous verrez pourquoi un peu plus tard, les créanciers la détestent. Mettez-vous dans la peau d'un banquier qui doit décider du taux d'intérêt à appliquer à un prêt sur 20 ans. Évidemment, vous devez choisir un taux supérieur à celui de l'inflation actuelle, sans quoi vous n'allez pas gagner de pouvoir d'achat. Mais surtout, vous devez intégrer dans vos estimations la manière dont l'inflation va se comporter sur les 20 prochaines années. Parce que la grande majorité des prêts effectués sur les marchés financiers, on les appelle des obligations, sont à taux fixe, l'anticipation de l'inflation est très importante pour les créanciers. Un monde dans lequel les variations de prix sont importantes entraîne une forte incertitude qui peut dissuader certains agents économiques, ceux qui possèdent de l'épargne ou qui créent la monnaie, d'utiliser leur pouvoir de financement. Or, quand les financements sont moins facilement accessibles, ce sont les dépenses qui se réduisent. Vous connaissez la suite. L'inflation provoque donc une diminution du pouvoir d'achat des épargnants, une redistribution des revenus et une insécurité plus ou moins ressentie par les agents économiques. Cependant, ces problèmes ne sont pas insolubles. En réalité, le réel danger de la fluctuation des prix est ailleurs. Une cousine encore moins sympa, la déflation. Puisque c'est le ralentissement des dépenses qui provoque une crise de la demande, ne faudrait-il pas plutôt avoir peur de la déflation ? Imaginez l'inflation à l'envers. L'inflation à l'envers. Les prix baissent au lieu d'augmenter. Vous vous souvenez de mes pommes qui coûtaient 10 centimes plus cher d'une année sur l'autre ? Eh bien, imaginez qu'elles coûtent 10 centimes de moins. Voilà ce qu'est la déflation, la baisse du niveau général des prix. Comment la baisse des prix pourrait-elle faire peur à qui que ce soit ? N'est-ce pas une bonne nouvelle quand les prix baissent ? Je vous prends à nouveau en flagrant délit de raisonnement micro. Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Si les prix baissent, c'est qu'il doit y avoir plus de vendeurs, entreprises qui produisent, que d'acheteurs, agents économiques qui consomment ou investissent. Donc, très peu de dépenses, donc très peu de revenus. Un petit rappel est nécessaire ici. Les crises de la demande sont toujours provoquées par un ralentissement des dépenses. Or, qu'est-ce qui est le plus efficace pour convaincre les agents économiques de ralentir leurs dépenses ? Le fait que leur épargne aura bientôt moins de valeur, inflation, ou l'inverse, le fait que celle-ci aura bientôt plus de valeur, déflation. Prenez le temps d'y penser un instant. Si votre épargne perd de la valeur, inflation, alors autant essayer de la dépenser maintenant. L'inflation est en réalité une très bonne manière de forcer les agents économiques, particuliers, entreprises et États, qui ont de l'épargne, à dépenser maintenant plutôt qu'à patienter. Or, l'accélération des dépenses, du moment qu'il ne s'agit pas de nourrir une bulle spéculative, est une excellente chose pour le moteur économique. Cela permet d'augmenter les revenus de la population tout en créant de nouvelles richesses. Crise égale déflation. En revanche, si les agents économiques, entreprises, particuliers, États, constatent que les prix baissent, il est logique qu'ils se mettent à patienter, quand c'est possible, avant de réaliser leurs dépenses, afin de payer moins cher. Voilà qui provoque un ralentissement des dépenses, donc des revenus, et donc de l'activité économique. En réalité, les périodes de déflation sont systématiquement corrélées aux crises économiques, ce qui n'est absolument pas le cas de l'inflation. Le Japon en est l'exemple type. Depuis la crise financière de 1991, encore une bulle spéculative, la déflation est la règle au Japon et la croissance du PIB est quasiment inexistante, 0,45% par an en moyenne. Déflation égale dette plus lourde à porter. Autre problème, la déflation accentue le poids de la dette sur les agents économiques. En effet, une entreprise qui s'endette à hauteur de 1 million d'euros aujourd'hui, un montant qui reste fixe au fil du temps, mais qui est obligée de baisser ses prix de 5% tous les ans, verra le ratio de sa dette par rapport à ses revenus augmenter, ce qui est un très mauvais indicateur financier. En effet, plus le poids de la dette augmente pour un agent économique, particulier, entreprise ou État, plus les financiers ont peur de ne pas se faire rembourser et deviennent réticents à financer, voire à refinancer, l'agent en question. Pour rappel, le refinancement correspond au remboursement d'une dette par un nouvel emprunt. Il s'agit donc d'un allongement de la durée du prêt. Et pour ceux qui se demandent pourquoi une entreprise serait obligée de baisser ses prix, l'explication vient de la concurrence. Si toutes les entreprises baissent leurs prix, alors une entreprise isolée aura du mal à maintenir ses parts de marché sans suivre la tendance. Autrement dit, le poids de la dette augmente parce que les revenus de l'entreprise diminuent d'année en année et que le montant à rembourser, lui, ne diminue pas. D'un autre côté, la déflation favorise les prêteurs qui récupèrent leur mise de départ, les intérêts, et qui bénéficient d'une hausse de leur pouvoir d'achat, étant donné que les prix ont baissé. Cela dit, en réalité, même les prêteurs ont très peur de la déflation. Comme cette dernière est systématiquement associée à un contexte de crise de la demande, ralentissement des dépenses, les prêteurs vont constater que le poids de la dette augmente et que les non-remboursements risquent d'être plus fréquents. Ainsi, ils savent que le risque d'être prêteur en période de déflation est beaucoup plus grand qu'en période d'inflation. Quand l'inflation soulage les agents économiques. L'argument est inversé en cas d'inflation. Quand les prix montent, les revenus augmentent aussi. Plus de chiffre d'affaires, plus de taxes, plus de salaires, ok, pas forcément plus de salaires, on va en reparler, tandis que la dette à rembourser, elle, n'augmente pas. Or, parce que le poids de la dette se mesure en faisant le ratio des revenus par rapport au montant dû, l'inflation réduit le poids de la dette. En gros, comme l'inflation augmente mécaniquement le PIB, le poids de la dette des agents économiques diminue. Déflation versus inflation, le battle. Les phases d'inflation et de déflation ne sont pas des générateurs de crise. La déflation bloque l'économie dans la crise, mais elle ne la provoque pas. On parle de trappe déflationniste. Quant à l'inflation, elle possède, malgré ses défauts, des avantages très intéressants pour la croissance économique. Elle encourage les épargnants à dépenser. Pour ceux du fonds, je rappelle, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Et elle permet aux entreprises, à l'État et à certains particuliers, d'amoindrir le poids de leurs dettes, nécessaires au financement des déficits, donc des investissements. Voilà pourquoi on vous explique dans les médias que l'inflation est en réalité une bonne chose quand elle ne dépasse pas quelques pourcents par an. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne vise, par ses interventions, à maintenir une inflation de 2% par an, ce à quoi elle échoue depuis plusieurs années dans la zone euro. La hausse des prix, inflation, est, dans une certaine mesure, éminemment plus souhaitable que la baisse des prix, déflation. En d'autres termes, toutes les déflations, baisse généralisée des prix, sont toujours mauvaises, tandis que toutes les inflations, hausse généralisée des prix, ne le sont pas forcément. Tout dépend du niveau de l'inflation et donc du poids de ses avantages par rapport à ses inconvénients. Finalement, seules les inflations extrêmes sont nocives. On parle alors d'hyperinflation. La marâtre de la famille, l'hyperinflation. Lorsque l'on évoque les crises que peut provoquer l'inflation, on cite souvent l'exemple de la République allemande de Weimar et sa période hyperinflationniste de 1923. L'État allemand aurait surutilisé le pouvoir de création monétaire de sa banque centrale pour financer un immense déficit public, lui-même causé par le paiement de sommes astronomiques aux Alliés dans le cadre des réparations imposées par le traité de Versailles. Ainsi, un bien coûtant 1 Reichsmark en juillet 1914, en coûtait 36,7 en janvier 1922, 2785 en janvier 1923 et 726 milliards en novembre de la même année. On dit même que c'est l'hyperinflation allemande qui, en provoquant une crise économique sans précédent, aurait favorisé l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler.